RFI, grand reportage.
Nathalie Amar.
Et c'est la suite de notre série de reportages en levée de rideau du sommet du G20 à Pittsburgh. Hier, l'Espagne. Aujourd'hui, le Brésil. Il y a un an, lorsque la crise financière avait affecté les places boursières du monde entier, la plus importante d'Amérique du Sud, celle de São Paulo, n'y avait pas échappé. Mais la crise, finalement, a eu de faibles conséquences au Brésil, à tel point que le pays annonçait fièrement la semaine dernière être déjà sorti de la récession pour renouer avec la croissance. Brésil, la page est tournée. Reportage à Brasilia et à Rio de notre correspondante Annie Gasnier.
Là-bas, la crise, c'est un tsunami. Ici, elle ne sera qu'une vaguelette sur laquelle on ne pourra même pas surfer.
Cette courte phrase, prononcée par le président du Brésil le 4 octobre 2008, soit deux semaines après l'écroulement des bourses du monde entier, fit couler beaucoup, beaucoup d'encre ici et valut à Luiz Inácio Lula da Silva des critiques nourries de l'opposition lorsque la crise toucha enfin les côtes brésiliennes. Plus tard qu'ailleurs, certes, mais durant quelques mois, elle a affecté divers secteurs de l'économie, moins durement que dans d'autres pays cependant, analyse le ministre de l'économie brésilien, Guido Mantega.
En vérité, la crise est arrivée au Brésil comme elle est arrivée en Chine et dans toutes les parties du monde. Mais elle est arrivée moins intense que des autres pays parce que le Brésil était dans un process de croissance forte. Nous avons beaucoup de réserves internationales avec moins de fragilité internationale. C'est très différent de toutes les crises antérieures quand le Brésil était faible et alors et nous sommes allés au fonds monétaire pour demander d'argent. Et dans cette crise-là, nous avons une situation fiscale très forte aussi. Et les programmes de stimulation de l'économie, nous avons dépensé peu d'argent pour les programmes. Alors, nous sortirons de la crise avec un déficit mineur que le déficit de tous les pays du G20. Et ça signifie que nous sommes en condition plus favorable pour une récupération plus rapide.
Peut-être que le président Lula avait bien analysé la situation internationale et celle de son pays. Son système bancaire, par exemple, avait été restructuré à la fin des années d'hyperinflation, les années 90, et il est aujourd'hui très contrôlé et n'a pas été touché. Les autorités de Brasilia affirment donc déjà être sorties de la récession et avoir renoué avec la croissance. L'économie s'appuie sur des moteurs sûrs comme son marché intérieur. Les supermarchés n'ont pas des amplis, les chalands afflués. Même en prêtant attention aux étiquettes, avoue Sidi Neia, occupé à choisir un t-shirt dans le grand centre commercial à ciel ouvert de Rio de Janeiro, le très populaire Sahara.
Je viens ici presque toutes les semaines et toutes les semaines un produit a augmenté. Je fais de l'artisanat et le prix des choses a vraiment grimpé. Je crois que les prix ne sont pas stabilisés et je regarde beaucoup avant d'acheter. Je vais voir dans différents magasins, je compare les prix. Je n'ai pas arrêté d'acheter, non, mais d'abord je compare. Et pour tout, l'alimentation, les vêtements.
Mercado, roupa, tout.
Les commerçants du Sahara affirment n'avoir jamais vu la crise. L'affluence de 120 000 personnes le samedi s'est maintenue, a constaté Ennio Bitancourt, propriétaire d'un magasin d'articles de sport et président de l'association du Sahara.
La crise, elle est passée à 3000 mètres d'altitude. Nous n'avons eu aucun problème de vente et jusqu'à aujourd'hui, le Sahara n'a pas de soucis. Tous les commerçants sont bien préparés, ils ont leur stock. Vous savez, le Sahara vend de tout, de la confection, des articles de sport, de l'alimentation, des chaussures, des bijoux, de la décoration pour les fêtes. Et les riches, ceux qui ont l'habitude d'aller dans les centres commerciaux de luxe, ils arrivent en masse et en courant au Sahara parce que s'ils sont un peu justes financièrement, ils viennent ici remplir leurs obligations sociales et économiser de l'argent en achetant. Parce que nous, ici, on vend les mêmes choses que là-bas, mais 30 à 40% moins cher. On n'a pas senti la crise. Et avec les mesures du gouvernement, par exemple pour l'électroménager, ça a gonflé nos ventes. Et tout le monde est content. Avec en plus Noël qui arrive, cette année, on devrait dépasser les records de l'an dernier.
Plus que les commerçants, leurs clients ont, eux, plus nettement perçu la crise, comme Angela Blum, qui faisait des courses au Sahara avec une copine.
Je l'ai senti dans mes affaires parce que j'organise des petites fêtes de famille pour les classes plus aisées, justement celles qui ont le plus senti la crise. Et j'ai eu moins de demandes à ce moment-là, je l'ai bien ressenti. Mais de nouveau, ça repart, pas encore au bon niveau de l'an dernier quand on ne parlait pas du fantasme de la crise. Mais bon, j'ai réduit mes dépenses car je gagnais vraiment moins. J'ai changé quelques habitudes, par exemple je vais moins au centre commercial ou j'achète moins de choses. Avant je changeais de voiture tous les ans, là non, oui. J'ai changé mes habitudes.
Les classes les plus aisées auraient plus ressenti les effets de la panique boursière et le ralentissement des investissements. Enfin, pas tant que ça, à écouter le propriétaire du luxueux shopping Leblon de Rio, Renato Riquet, qui possède 30 centres commerciaux à travers tout le Brésil.
À ce moment, ici, dans la ville de Rio, il y a plusieurs investissements et milliards de dollars, des gros projets qui sont en construction dans le secteur des infrastructures, de sidérurgie, de ThyssenKrupp et autres industries en expansion et aussi l'immobilier. Donc, en fait, nous n'avons pas senti la crise ici. Nous avons perçu que les marques de luxe sont les marques qui vont mieux dans ces shoppings-là. Par exemple, les marques très prestigieuses internationales comme Lacoste, Ferragamo, Armani et toutes les autres grandes marques brésiliennes aussi. Les consommateurs brésiliens, ils ont le désir d'acheter parce que nous avons passé beaucoup de temps sans pouvoir acheter les choses que nous voulons. Et c'est par rapport, parce qu'il y avait l'inflation qui enlevait le pouvoir d'achat. Il y avait l'incertitude politique et économique. Donc la confiance au futur était problématique. Il fait 10 ans que le pays a stabilisé l'économie, la politique. Et c'est un bon moment pour nous maintenant.
Le secteur d'activité industrielle le plus sensible aux variations des commandes et victimes de la raréfaction du crédit a vu sa production violemment baisser, notamment dans l'automobile, parce que les filiales des grands constructeurs installés ici exportent 30% de leur production. Ainsi, par exemple, les ventes vers l'Argentine voisine ont été divisées par deux. Mais le gouvernement est venu à leur secours, stimulant le marché intérieur en augmentant l'accès au crédit auto et en réduisant à zéro l'impôt sur les voitures, l'IPI. Résultat, record de ventes battues au deuxième trimestre 2009. Et samedi après-midi, le concessionnaire Volkswagen de Copacabana, Luis Claudio, était très satisfait.
Aujourd'hui, ici, j'ai vendu 8 véhicules, que des voitures neuves, la moitié à crédit. Et vu le genre des habitants de Copacabana, parmi ces 8 voitures, 4 sont des grosses, chères. Les autres, des petits modèles populaires, la Gol. En fait, le Brésil n'a pas été si affecté que ça, car en début d'année, il y a eu la réduction de l'IPI. L'IPI zéro, c'est un impôt sur les voitures. Ça a réduit les prix de 3,5%. Et maintenant, on attend, car le journal officiel a déjà publié que le taux de l'IPI va augmenter début octobre. Mais nous, on pense qu'ils ne vont pas l'augmenter, vu que le secteur auto est un levier pour notre pays. Tout le monde appréhende, et c'est pour ça que, comparé au début du mois, il y a tout ce monde dans ma concession. 50% de visiteurs en plus.
L'achat de voitures se démocratise peu à peu dans une société où 40 millions de personnes ont ces dernières années intégré la classe moyenne. Mais en dépit des promotions, en période post-crise, on reste prudent, comme Christina, acheteuse potentielle, qui négociait avec Luis Claudio.
J'essaie de concilier entre ce que j'aimerais acheter et le prix que je peux payer. Si on considère la moyenne salariale d'un Brésilien, même s'il est de la bonne classe moyenne, le coût d'une voiture reste très élevé par rapport à notre réalité. Il vaut mieux payer cash à cause du taux de crédit toujours très élevé. Mais pour qui sait négocier en disant tel concessionnaire m'a fait telle proposition, sauf que moi je ne sais pas le faire. Je crois que je vais réfléchir encore un peu.
Acho que vou ter que pensar um pouco.
Le secteur de la construction a aussi ressenti les doutes suscités par la panique mondiale. Au premier semestre 2009, les projets de vente de maisons neuves et d'appartements avaient baissé de 25% pour reprendre avec vigueur en juillet-août dernier. Les commandes de matériaux de construction en baisse de 10% ont repris plus 4% ces dernières semaines. Directeur au Brésil des magasins d'équipement Leroy Merlin, Alain Reckboer assure que ces résultats ont même progressé cette année.
Pour être sincère, on n'a pas souffert des effets de la crise, nous, chez Leroy Merlin. D'abord, on est sur un marché quand même très très important au Brésil, qui est énorme. Ensuite, on a maintenu nos investissements, on a vraiment maintenu nos projets d'ouverture de magasins. Donc on a ouvert 2 magasins au début d'année, on ouvre un magasin maintenant au mois d'octobre. Donc on n'a absolument rien retardé. On avait prévu un plan B au cas où la crise nous affecterait de façon plus significative, mais on n'a pas eu besoin de l'activer. Et on a réussi à passer cette crise avec des résultats en 2009 aussi bon qu'en 2008.
L'année 2009 est celle de l'année de la France au Brésil avec beaucoup de manifestations culturelles, mais aussi de nombreux rendez-vous d'affaires. Et malgré tout, cette année s'est bien passée, affirme Eric Fajol, conseiller économique et commercial au consulat de Rio de Janeiro.
L'année 2009 pour nous a été une année très forte en termes de fréquentation par les PME françaises de la destination Brésil. On avait eu peur, effectivement. Il y a eu la crise, il y a eu aussi la grippe, il y a eu le vol Air France, il y a eu des tas de raisons qui ont fait que les entreprises sur une destination aussi lointaine et assez méconnue fassent que finalement on reporte les voyages à plus tard. Et au contraire, je trouve que toutes nos opérations ont grossi cette année. Beaucoup d'entreprises sont venues et ça continue à venir avec des résultats très concrets en matière de contact et même d'implantation de sociétés françaises. Je pense au secteur du pétrole en particulier ou de la mode où on a vu cette année des ouvertures d'entreprises ou de filiales françaises au Brésil.
L'avenir sourit au Brésil, qui a des comptes en ordre et d'importantes ressources de matières premières, même des nouvelles comme ce pétrole pré-sale, d'énormes gisements qui dorment encore entre 5 et 7 000 mètres de fond sous l'océan Atlantique et sous 2 km de croûte de sel au large de Rio. Le Brésil, future puissance pétrolière qui posséderait les 5e ressources mondiales, se profile et mobilise déjà les milieux d'affaires. Eduardo Gouveia Vieira préside la Fédération des industries de Rio de Janeiro.
La réserve, c'est énorme, gigantesque. Il faut remarquer que cette réserve sont là, mais pour arriver le pétrole ici, la terre, il faut prendre quelques dizaines d'années, éventuellement 15 ou 20 ans. Mais nous sommes préparés pour ça. Nous avons besoin de partenaires. Même la Petrobras, elle a besoin de partenaires. Les Européens, c'est très important pour nous. Quand je parle du pétrole et le gaz naturel, nous sommes en train de parler d'une chaîne énorme de sociétés qui vendent des biens et des services pour cet énorme business. Le Brésil va changer. J'espère que nous pouvons être un pays libre, normal, avec du pétrole. Comparé avec les autres pays qui ont beaucoup de pétrole, il y a un désastre comme société, dictature et tout ça. J'espère que le Brésil ne va pas à cette voie.
Candidat à l'organisation de grands événements sportifs comme la Coupe du Monde de 2014, le Brésil a un carnet plein de projets d'infrastructures indispensables qui, là encore, devraient doper son activité économique. En août, 240 000 emplois ont été créés et la croissance pourrait atteindre 5% en 2010, selon le ministre de l'économie. Guido Mantega se sent aujourd'hui respecté sur la scène internationale.
Je crois qu'aujourd'hui, le Brésil, il y a une reconnaissance plus grande qu'au passé. Il a un intérêt très grand sur le Brésil. Il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de capitaux dans la bourse. Alors nous croyons que nous sommes dans une autre situation et notre futur, c'est un futur prometteur. Et nous sommes demandés à parler dans toutes les réunions. Je crois que la position du Brésil, c'est important et les suggestions que nous faisons. Aujourd'hui, je crois que si nous avons un résultat positif de la crise, c'est qu'il y a plus de coopération internationale. Par exemple, la France et le Brésil se sont rapprochés. La crise était une preuve du feu pour voir les pays qui étaient équilibrés, qui étaient forts, les pays qui étaient faibles et qui ont accumulé des déséquilibres libre macroéconomique dans cette année. Alors le Brésil sortira de la crise plus forte de qu'il a commencé.
Laissons donc à un Brésilien le mot de la fin sur cet optimisme d'une nation émergente qui se sent enfin vraiment prise au sérieux. Renato Rick.
J'ai toujours écouté que le Brésil était un pays du futur. Alors, c'est la première fois que je vois ce futur plus proche.
Au Brésil, la page est tournée. Ce reportage sur l'économie brésilienne avant la tenue du G20 a été réalisé à Brasilia et Rio de Janeiro par Annie Gasnier, à la réalisation technique, Marc Minatel.
À présent en ligne, Annie Gasnier. Bonjour Annie.
Bonjour.
Alors on le comprend en vous écoutant, le Brésil arrive en position de force à ce sommet du G20 de Pittsburgh. Avec quelle demande et quel objectif ?
Écoutez, le Brésil, affirmant qu'il a déjà renoué avec la croissance, espère bien finalement asseoir une certaine crédibilité sur le modèle qu'il a imposé, disons, dans son pays, et surtout en espérant que finalement tous les conseils qu'on lui avait donnés à l'époque des années 90, hein, quand on obligeait tous ces pays via le FMI à mettre de l'ordre dans leurs finances, et bien finalement, en suivant ces règles, peut-être que cela aussi permet de ne pas s'effondrer quand il y a une crise. Hier, une agence de crédit international, la Moody's des États-Unis, a classé le Brésil comme un pays sûr pour les investissements. Deux agences l'avaient déjà fait, mais c'était avant le tourbillon de la crise, donc ça avait été un petit peu oublié. Mais là, ça entérine clairement la capacité de cette économie d'encaisser des chocs. Et donc, les Brésiliens devraient asseoir leur crédibilité, pouvoir donner des conseils, donner leur opinion sur les solutions à la sortie de la crise.
Sur l'un des grands dossiers de ce G20 de Pittsburgh, à savoir la question de la régulation de la finance mondiale, quelle est, Annie, la position du président Lula ?
Alors écoutez, là, le président Lula est complètement en harmonie avec le président Sarkozy. Ils sont d'accord sur ce point. Ils en ont encore récemment parlé à Brasilia, hein, en dépit d'origines politiques véritablement opposées. Il faut réguler le système financier mondial. Lula estime que la crise a démontré que l'État doit jouer un rôle important. Et il sait de quoi il parle, parce qu'ici, dans les années 90, les banques qui sortaient des périodes d'hyperinflation où elles avaient gagné énormément d'argent ont dû s'adapter à la réalité national et international. Il y a eu des faillites, il y a eu des fusions, mais l'État a supervisé cette réorganisation. Et durant la crise, aucune banque n'a éprouvé de problème ici au Brésil. Donc pour Lula, la crise doit permettre de changer la logique du capitalisme mondial et notamment de réorganiser le système bancaire.
Mais le fait que le pays n'ait pas trop souffert de la crise, Annie, on peut imaginer que ce sera à verser au crédit de Lula à l'heure des prochaines échéances électorales ?
Oui, oui, il y a des élections présidentielles dans un an, au mois d'octobre, l'année prochaine, en 2010. Mais un détail important, Lula ne peut pas être candidat. Donc Lula a une popularité enviable, certainement pour beaucoup d'élus démocratiques dans les pays du monde entier, puisqu'il a près de 80% de satisfaits dans les sondages. Et c'est surtout grâce à cette excellente situation économique qui lui a permis de faire une certaine redistribution de l'argent au Brésil, et surtout des plans sociaux qui ont permis à peu près à 40 millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté pour entrer, disons, dans une sous-classe moyenne ces 10 dernières années. Lula n'est au pouvoir que depuis 6 ans. Mais Lula, comme il ne peut se représenter, il y a à parier évidemment que tout ce bénéfice de la situation pourra aussi aider son candidat, et ce sera peut-être sa ministre Dilma Rousseff qu'il a choisi pour l'instant comme héritière politique. Mais,
merci beaucoup Annie Gasnier d'avoir été en ligne de Rio, et on suivra bien sûr ces prochaines échéances électorales avec vous. À Brésil, la page est tournée. Votre grand reportage est à retrouver sur le site internet de la Radio Mondiale, www.rfi.fr. Et demain, la suite de notre série de grands reportages en levée de rideau du sommet du G20 à Pittsburgh, après l'Espagne, après le Brésil. Donc, nous serons à Pittsburgh, même aux États-Unis, avec notre correspondante Donna Aigledu. Dernière étape, ce sera vendredi en Afrique du Sud avec Nicolas Champeau. Dans une minute tout juste, le retour de l'actualité sur Radio France Internationale.